Le testament d'un excentrique, deuxième partie, chapitre 13. Les derniers coups du match Hyperbone. Il est inutile de dépeindre l'état d'âme de Lizzie Wagg lorsque la jeune fille se sépara de Max Real pour aller prendre sa place à Richmond. Partie dans la soirée du 13, elle ne pouvait se douter que dès le lendemain, le sort ferait pour Max Real ce qu'il avait fait pour elle, c'est-à-dire lui rendre la liberté et lui donner l'occasion de se remettre en ligne sur le vaste champ de course des États-Unis d'Amérique. En proie à de si vives émotions, renfermée en elle-même, Lizzie Wagg s'était blottie en un coin du wagon, et Jovita Affolée, assise près d'elle, n'essaya point de troubler sa compagne par d'inopportunes conversations. De Saint-Louis à Richmond, on ne compte au plus que 700 miles à travers le Missouri, le Kentucky, la Virginie occidentale et la Virginie orientale. Ce fut donc dans la matinée du 14 que les deux voyageuses atteignirent Richmond, où elles devaient attendre le prochain télégramme du notaire Thornbrock. On sait d'autre part que Max Real avait résolu de ne quitter Saint-Louis que le jour où le tirage du vin aurait été proclamé, dans la pensée qu'il pourrait peut-être rencontrer Lizzie Wagg sur sa route lorsqu'il irait à Philadelphie remplacer Tom Queb. On imagine aisément la joie des deux amis. Joie vive, mais réservée chez l'une, bruyante et démonstrative chez l'autre. Lorsque, dès leur arrivée, les journaux de Richmond apprirent la délivrance de Max Real. « Non, vois-tu, ma chère !» déclara Jovita Affolée, toute vibrante. « Il y a un dieu. Des gens prétendent qu'il n'y en a pas. Les fous. S'il n'y en avait pas, est-ce que ce Queb aurait jamais amené ce point de 5? Non. Dieu sait ce qu'il fait, et nous devons le remercier. » « Du fond du cœur, » acheva Lizzie Wagg, en proie à une profonde émotion. « Après tout, le bonheur de l'un est souvent le malheur de l'autre. » reprit Jovita Affolée. Aussi, j'ai toujours pensé qu'il n'y a sur Terre qu'une certaine somme de bonheur à la disposition des humains, et que l'un n'en prend sa part qu'au détriment de l'autre. Voyez-vous, cette étonnante personne avec ses aperçus philosophiques. Dans tous les cas, s'il n'y a qu'une certaine somme de gaieté à dépenser en ce bon monde, elle ne devait guère en laisser aux autres, car elle en prenait sa bonne part. « Donc, continua-t-elle, voilà le Queb en prison à la place de Monsieur Real. Ma foi, tant pis pour lui, et à moins que le Commodore Hurricane aille le délivrer. Mais si cela arrivait, je ne voudrais pas me trouver sur le chemin de cette bombe marine. » À présent, il ne s'agissait plus que d'attendre sans impatience jusqu'à la date du vin. Pendant ces 6 jours, le temps s'écoulerait d'une façon agréable à visiter cette métropole Richmond, dont Max Real avait vanté justement la beauté aux deux amis. Et sans doute, elle leur eût semblé plus belle encore si le jeune peintre les eût accompagnés pendant ses promenades. C'est du moins ce que déclara Jovita Affolée. Et il est probable que Lizzie Wagg partageait cette opinion. D'ailleurs, elles ne restèrent à l'hôtel que le moins possible. Cela leur permit de fuir les intervieweurs des feuilles virginiennes qui avaient, et à grand fracas, signalé la présence de la 5e partenaire à Richmond. Au grand ennui de Lizzie Wagg, plusieurs de ses journaux avaient publié son portrait et celui de Jovita Affolée, ce qui ne déplaisait pas à son autre elle-même, comme on disait. Et le moyen de ne pas répondre aux marques de sympathie qui les accueillaient pendant leurs excursions. Oui, deux riches héritières qu'on saluait depuis qu'elles n'étaient plus devancées que par cet invraisemblable XKZ, à l'existence duquel nombre de gens refusaient encore de croire. Le Lizzie Wagg était de plus en plus demandé dans les agences de Paris et sur les marchés de l'Union. « Je prends du Lizzie Wagg. J'arbitre du Kimball contre du Lizzie Wagg. J'ai du Tilbury. « Qui veut du Tilbury? Voilà du Tilbury. Et du Queb par paquet. Qui a du Real? Qui a du Lizzie Wagg ?» On n'entendait que cela. et l'on ne saurait imaginer ce que fut l'importance des sommes engagées sur les chances de succès de la cinquième partenaire aux États-Unis comme à l'étranger. En deux coups heureux, elle pouvait atteindre le but et devenir de ce chef, même en partageant avec sa fidèle compagne, l'une des riches héritières de ce pays des dollars, qui figurent au livre d'or de l'Amérique. Lorsque le 16 juin était arrivé, comme il n'y avait pas à s'occuper d'Herman Tilbury, plongé pour un mois encore dans les délices d'Excelsior Hotel, quelques intéressés, on le sait, avaient émis la prétention que ce tirage eut lieu au profit du quatrième partenaire, c'est-à-dire Dawist et Kimball, et que chaque tour fut avancé de 48 heures. Mais ce ne fut l'avis ni de M. George B. Higginbotham, ni des autres membres de l'Excentric Club, ni de Maître Thornbrock, chargé d'interpréter les intentions du défunt. Le 18, on n'ignore pas que le chroniqueur en chef de la tribune avait été envoyé d'Olympia à Yonkton, et le lendemain, les journaux racontèrent qu'il avait quitté la capitale du Washington en prenant la ligne transcontinentale du Northern Pacific. Au total, par son passage de la 30e à la 39e case, il ne menaçait aucunement l'Issiwag, qui occupait la 44e. Enfin, le 20 avant 8 heures, Jovita Follet, ayant obligé son amie à la suivre, se trouvait au post-office de Richmond. Là, une demi-heure après, le fil leur apporta le point de 12 par 6 et 6, le plus élevé que peuvent amener deux dés. C'était une avance de 12 cases qui les transportait à la 56e, état de l'Indiana. Les deux amis revinrent en toute hâte à l'hôtel afin d'échapper aux démonstrations trop vives du public, et Jovita Follet de s'écrier alors « Ah, ma chère, Indiana et Indianapolis, sa capitale, est-il permis d'avoir une pareille chance? Voilà que nous nous rapprochons de notre Illinois, et maintenant tu es en tête, et tu as dépassé de 5 cases cet intrus, cet XKZ, et le pavillon jaune bat le pavillon rouge. Il ne te faut plus que 7 points pour triompher. Et pourquoi ne serait-ce pas le nombre 7 qui sortirait? N'est-ce pas celui des branches du chandelier biblique, celui des jours de la semaine, celui des Pléiades ? » Elle n'osa pas dire celui des péchés capitaux. « Celui des partenaires qui courent après l'héritage ? Mon Dieu, faites que les dés nous attribuent le nombre 7 et que nous gagnions la partie. Si vous saviez, et vous devez le savoir, quel bon usage nous ferons de ces millions ! Du bien à tout le monde ! Et nous fonderons des maisons de charité, des ouvroirs, un hôpital. Oui, l'hôpital Wag Follet pour les malades de Chicago, en grosses lettres. Et moi, je ferai construire un établissement pour les jeunes filles sans fortune qui ne peuvent se marier. Et j'en serai la directrice. Et tu verras comment j'administrerai. Ah, par exemple, ce n'est pas toi qui jamais y entreras, mademoiselle milliardaire, puisque... Enfin, je m'entends... Et d'ailleurs, les marquis, les ducs, les princes rechercheront ta main. » Positivement, Jovita Follet délirait. Et elle embrassait l'Issiwag, qui accueillit d'un vague sourire toutes ses promesses de l'avenir. Et elle tournait, tournait comme la toupie sous le fouet de l'enfant. La question, maintenant, fut de décider si la cinquième partenaire quitterait immédiatement Richmond, puisqu'on avait jusqu'au 4 juillet pour se rendre à Indianapolis. Or, comme elle se trouvait depuis 6 jours déjà dans la cité virginienne, Jovita Follet affirma que mieux valait partir dès le lendemain pour la nouvelle destination. L'Issiwag se rendit à ses raisonnements. Et d'ailleurs, l'indiscrétion du public, les instances des reporters devenaient de plus en plus gênantes. Et puis, du moment que Max Real n'était pas à Richmond, à quoi bon y prolonger son séjour ? À ce dernier argument, présenté par Jovita Follet avec une insistance qui ne devait pas déplaire, qu'aurait pu répondre l'Issiwag ? Donc, le 21, dans la matinée, toutes deux se firent conduire à la gare. Le train, après avoir traversé la Virginie orientale, la Virginie occidentale et l'Ohio, les déposerait le soir même dans la capitale de l'Indiana. Un parcours de 450 milles. Or, il arriva ceci. C'est qu'elles furent accostées sur le quai par un gentleman des plus polis, lequel dit en s'inclinant « C'est bien à Miss Lissiwag et à Miss Jovita Foley que j'ai l'honneur de parler. »«
À elle-même ?» répondit la plus pressée des deux.
« Je suis le majordome de Mistress Miglesi Bullen, et Mistress Miglesi Bullen serait heureuse si Miss Lissiwag et Miss Jovita Foley acceptaient de monter dans son train, qui les mènerait à Indianapolis. »
« Viens !» dit Jovita Foley, sans donner à Lissiwag le temps de réfléchir.
Le majordome les accompagna vers une voie de garage, sur laquelle attendait un train, comprenant une locomotive, toute reluisante d'asticage, un wagon salon, un wagon salle à manger, un wagon chambre à coucher, un deuxième fourgon à l'arrière, aussi luxueux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Un vrai train royal, impérial ou présidentiel. C'est ainsi que se déplaçait Mistress Miglesi Bullen, une des plus opulentes américaines de l'Union. Rivale des Whitman, des Stevens, des Jerry, des Bradley, des Sloan, des Belmont, etc., qui ne naviguent que sur leur propre yacht et ne voyagent que dans leur propre train, en attendant qu'elles ne le fassent que sur leur propre railroads, Mistress Miglesi Bullen était une aimable veuve de 50 ans, propriétaire d'inépuisables mines de pétrole, autant dire de mines de dollars. Lissiwag et Jovita Foley passèrent au milieu du nombreux personnel domestique rangé sur le quai et furent reçus par deux dames de compagnie qui les conduisirent au wagon-salon où se trouvait la milliardaire. « Mesdemoiselles !» leur dit très affablement cette dame. « Je vous remercie d'avoir accepté mon offre et de consentir à m'accompagner pendant ce voyage. Vous le ferez dans des conditions plus agréables que dans le train public. Et je suis heureuse de témoigner ainsi de l'intérêt que je porte à la cinquième partenaire, bien que je n'ai aucun intérêt engagé dans la partie. Nous sommes infiniment honorés. » De l'honneur que nous fait Mistress Miglesi Bullen, répondit Jovita Foley. Et nous lui exprimons notre vive reconnaissance, ajouta Lissiwag. C'est inutile, répondit en souriant cette excellente dame. Et j'espère, Miss Wag, que ma compagnie vous portera bonheur. Il fut charmant ce voyage, car malgré ses millions, Mistress Miglesi Bullen était la meilleure des femmes, et l'on passa d'agréables heures dans le salon, dans la salle à manger, puis en se promenant d'une extrémité à l'autre de ce train, dont on ne saurait imaginer le luxe d'ameublement, la richesse d'installation. Et pensez, déclara Jovita Foley à Lissiwag à un moment où elles se trouvèrent seules, que nous pourrons bientôt voyager comme cela. « Dans nos meubles ?»«
Sois donc raisonnable, Jovita. »«
Tu verras !» Et au vrai, c'était bien l'opinion, absolument désintéressée, de Mistress Miglesi Bullen, que Lissiwag atteindrait le but première des sept. Enfin, vers le soir, le train s'arrêta à Indianapolis, et comme il continuait sur Chicago, les deux amis durent descendre. En souvenir de ce voyage, Mistress Miglesi Bullen les pria d'accepter chacune une jolie bague, un rien entouré de diamants. Puis après l'avoir remerciée non sans quelque émotion, elles prirent congé, très touchées de cette hospitalité princière. Et alors, aussi incognito que possible, elles se rendirent à Sherman Hotel qui leur avait été indiqué. Cela n'empêcha pas, dès le lendemain, les journaux d'Indianapolis d'annoncer leur présence au dit hôtel. Indianapolis, comme la plupart des capitales d'État, occupe à peu près le centre du territoire, et de ce point, les voies ferrées rayonnent en toutes directions. À regarder la carte de l'Indiana,
on dirait une toile d'araignée, dont les fils, sous forme de railroads, sont tendus entre les degrés géodésiques qui lui servent de limite sur trois côtés. L'Ohio à l'est, l'Illinois à l'ouest, le Kentucky au sud et la pointe du lac Michigan au nord. Autrefois, si cet état justifiait le nom de « terre indienne », il est actuellement très américain, bien que ses premiers colons aient été des émigrants français. Ce n'est pas dans cette région que Max Réal aurait rencontré quelques sites pittoresques. Le pays est plutôt plat, seulement ondulé de coteaux. Très propice à l'établissement des chemins de fer, il s'est prêté à un grand développement commercial. Le sol est particulièrement propre à toutes les variétés de produits agricoles, riche en terres arables, non moins riche en houillères, en sources de pétrole et de gaz naturel. L'Indiana, avec 2 millions d'habitants, n'occupe que le 37e rang pour la superficie. Mais, en même temps qu'Indianapolis, il possède des villes très importantes, très actives, très prospères. Jeffersonville et New Albany, que Louisville du Kentucky, située sur la rive gauche de l'Ohio, réclame comme ses faubourgs. Evansville, la seconde de l'État, à l'entrée de la délicieuse vallée de Green River, et que relie au lac Erie un canal de près de 500 milles. D'autres encore, Fort Wayne, desservi par la ligne de Pittsburgh à Chicago, Terre Haute, où se concentre le commerce agricole, Vincennes, qui fut pendant quelque temps la capitale de l'Indiana. Ce n'est pas qu'Indianapolis ne mérite l'attention des touristes. Toutefois, si c'est une des grandes villes de la République américaine, on y chercherait vainement l'inattendu et le pittoresque. D'ailleurs, les deux amies l'avaient déjà visité lorsqu'elles se rendirent au Kentucky. Certes, pendant le délai de 15 jours dont elles disposaient, elles auraient eu le temps de visiter les principaux districts, de faire une excursion aux grottes de Van Diot entre Evansville et New Albany, qui le disputent à celle de Mammoth Caves. Mais Jovita Foley préférait en rester à l'inoubliable souvenir des merveilles du Kentucky. N'était-ce pas en ces lieux charmants qu'elle avait conquis le grade de lieutenant-colonel dans la milice illinoise? Elle y pensait quelquefois, non sans une belle envie de rire, et à l'obligation où elles seraient toutes deux, dès le retour à Chicago, d'aller militairement rendre leur devoir au gouverneur. Et lorsqu'elle voyait sa compagne, non pas triste, si l'on veut, mais songeuse, « Lizzie, lui répétait-elle, je ne te comprends pas, ou plutôt je te comprends très bien. C'est un brave jeune homme, sympathique, aimable, toutes les qualités, et entre autres celle de ne point te déplaire. Mais enfin, puisqu'il n'est pas ici, puisqu'il doit être maintenant à Philadelphie, au lieu et place de l'infortuné Quebb, qui ne peut plus même marcher de côté comme le crustacé dont il porte le nom. Il faut se faire une raison, ma chérie, et si tu fais des vœux pour Monsieur Réal, en faire aussi pour nous deux. » Jovita, tu exagères. » Allons, Lizzie, sois franche, avoue que tu l'aimes. » Et la jeune fille ne répondit pas, ce qui était sans doute une façon de répondre. Le 22, les journaux publièrent le coup de dé de ce jour relatif au Commodore Hurricane. On n'a point oublié que le pavillon orangé avait dû recommencer la partie en revenant de Death Valley et qu'un tirage assez heureux l'avait envoyé à la 26e case, état du Wisconsin. Cela prouve bien que, comme tous les jours, les coups se suivent et ne se ressemblent guère. Assurément, Maître Thornbrock avait eu la main malheureuse, car le point de 5 par 1 et 4 allait conduire Old Hurricane à la 31e case, état du Nevada. Or, c'était là que William Hyperbone avait placé le puits, au fond duquel le malheureux Commodore resterait enfoui tant qu'un de ses partenaires ne viendrait pas l'en tirer. C'est à croire qu'il le fait exprès, ce Thornbrock! S'était écrié Hodge Hurricane dans le paroxysme d'un épouvantable accès de colère. Et Turk, ayant déclaré qu'à la prochaine occasion il tordrait le cou au Thornbrock, son maître cette fois ne chercha point à le calmer. En outre, c'était une triple prime, $3,000 qui allait sortir de la poche du sixième partenaire et tomber dans la cagnotte. Ce bon cœur de Lissiwag ne put que plaindre l'infortuné loup de mer. « Plaignons-le, je le veux bien, » répondit Jovita Follet, « d'autant plus que je ne vois plus que le sieur Tidbury qui puisse le délivrer, si, en sortant de son hôtellerie, il prend le point de 12. Après tout, l'important est que M. Réal soit hors de prison, et j'ai l'idée que nous le reverrons plus tôt que plus tard. » Cette perspicace personne ne savait pas si bien dire. En effet, au retour de la promenade que les deux amis avaient faite ce matin-là, en arrivant devant Sherman Hotel, voici que Lissiwag ne put retenir un cri de surprise. « Et qu'as-tu ? » demanda Jovita Follet. Puis, à son tour de s'écrier « Vous ? Monsieur Réal ?» Le jeune peintre était là, devant la porte, près de laquelle se tenait Tommy. Un peu ému, embarrassé même, il cherchait à excuser sa présence. « Mademoiselle, dit-il, je me rendais à mon poste à Philadelphie, et comme l'Indiana se trouvait par hasard sur ma route... »« Un hasard géographique !» répondit en riant Jovita Follet. « En tout cas, un heureux hasard !» Et comme cela n'allongeait pas mon voyage, car, monsieur Réal, si cela avait dû l'allonger, vous ne vous seriez pas exposé à manquer. Oh, j'ai jusqu'au 28, Miss Wag, encore 6 jours francs, et lorsqu'on a 6 jours francs dont on ne sait que faire, le mieux est de les passer avec les personnes auxquelles on porte intérêt, un vif intérêt. Jovita, dit Lissiwag à mi-voix. Et le hasard, toujours cet heureux hasard, continua Jovita Follet, a voulu que vous choisissiez précisément Sherman Hotel. Puisque les journaux avaient dit que la cinquième partenaire y était descendue avec sa fidèle compagne. Eh, répondit la fidèle compagne, du moment que la cinquième partenaire est descendue à Sherman Hotel, il est bien naturel que le premier partenaire y descende aussi. Oh, si c'eût été le second ou le troisième. Mais non, c'était précisément la cinquième. Et dans tout cela, le hasard. N'y est pour rien, et vous le savez, Miss Wag, avoua Max Réal en pressant la main que lui tendit la jeune fille. Allons, c'est plus franc, s'écria Jovita Follet. Et franchise pour franchise, nous sommes très heureuses de votre visite, monsieur Réal. Mais je vous préviens que vous ne resterez pas ici 1 heure de plus qu'il ne faut, et que nous ne vous laisserons pas manquer le train de Philadelphie. Inutile de faire observer que Max Réal avait attendu à Saint-Louis que les journaux eussent annoncé l'arrivée de Lissiwag et de Jovita Follet dans la capitale de l'Indiana, et qu'il comptait bien leur consacrer tout le temps dont ils disposaient. Alors on causa, comme de vieux amis, à en croire Jovita Follet. On arrangea des promenades à travers la ville, laquelle, grâce à la présence de Max Réal, serait infiniment plus intéressante à visiter. Cependant, il fallut bien, sur les instances de la fidèle compagne, parler un peu de la partie. Lissiwag se trouvait en tête maintenant, et ce n'était pas cette XKZ qui la relèguerait au second rang. Pour arriver premier au prochain coup, il faudrait que ce chanceux personnage amenât le coup de 12. Or, ce point ne peut se faire que d'une seule façon, par 6 et 6, tandis que le point de 7, qui permettrait de planter le pavillon jaune de Lissiwag sur la 63e case, on pouvait l'obtenir de 3 manières différentes, 3 et 4, 2 et 5, 1 et 6. De là, 3 chances contre 1. À ce que prétendait Jovita Follet. Que son raisonnement fût juste ou non, Max Réal ne s'en préoccupa pas. Entre Lissiwag et lui, il n'était guère question du match. On parlait de Chicago, du retour qui serait prochain, du plaisir que Madame Réal aurait à recevoir les deux amis, et une lettre de cette excellente dame, sans doute après information prise, l'affirmait dans les termes les plus agréables. « Vous avez une bonne mère, monsieur Réal, » dit Lissiwag, dont les yeux se mouillèrent en prenant connaissance de cette lettre. « La meilleure des mères, Miss Wag, et qui ne peut qu'aimer tous ceux que j'aime. » « Et quel nom moins bonne belle-mère elle ferait ?» s'écria Jovita Follet en éclatant de rire. Cette seconde partie de la journée se passa en promenade dans les beaux quartiers de la ville, principalement sur les bords de la White River. Fuir les importuns qui assiégeaient Sherman Hotel, et tous voulaient épouser la future héritière de William J. Hyperbone, à en croire Jovita Follet. C'était devenu une véritable nécessité. La rue ne désemplissait pas. Par prudence, Max Réal, bien avisé, n'avait pas dit qui il était, car leurs partisans eussent été légion. Aussi, Max Réal attendit-il que la nuit fût venue avant de rentrer à l'hôtel. Et le dernier repas achevé, un souper plutôt qu'un dîner, on n'eut qu'à se remettre des fatigues d'une journée si heureusement remplie. À 10 heures, Lissiwag et Jovita Follet regagnèrent leur chambre. Max Réal se retira dans la sienne et Tommy dans un cabinet contigu. Et, tandis que l'une s'abandonnait à des rêves, tissés d'argent et brodés d'or, peut-être les deux autres se rencontrèrent-ils dans les mêmes pensées, sans trouver le sommeil. Oui, tous deux ne songeaient qu'au retour à Chicago, à la réalisation de leur plus cher désir. Et il se disait que, décidément, cette partie n'en finissait pas, qu'elle durait déjà depuis plus de 7 semaines, que dans quelques jours reviendrait l'obligation de reboucler sa valise, que des centaines de milles se les sépareraient encore, qu'il ferait mieux de renoncer. Par bonheur, ni Jovita Follet ni Madame Réal ne pouvaient les entendre. Et même Max Réal, en étudiant la carte du match, avait fait cette remarque assez inquiétante. C'est que sur les 7 États, tels qu'ils étaient disposés sur la carte Hyperbone entre l'Indiana et l'Illinois finale, il s'en trouvait 5 dans la région orientale de l'Union, à de grandes distances, au milieu de territoires insuffisamment desservis par les voies ferrées. L'Oregon, l'Arizona, le territoire indien, sans parler de la 58e case, celle de Death Valley, la vallée de la mort, illustrée par les aventures du Commodore Hurricane. Or, il eût suffi à Lissiwag d'amener le point de 2 pour être obligé de recommencer la partie, après un long et pénible voyage jusqu'en Californie. Donc, si elle ne gagnait pas le coup suivant en tirant le point de 7, elle risquait d'être envoyée très loin de l'Indiana. Et à quel danger ne serait-elle pas exposée? Lissiwag, elle, ne songeait même pas à ces menaçantes complications. Elle ne s'attachait qu'au présent, non à l'avenir. Elle se concentrait dans cette pensée que Max Réal était alors près d'elle. Il est vrai, quelques jours encore, et le sort allait encore les séparer l'un de l'autre. Enfin, les dernières heures s'écoulèrent, et le lendemain, au réveil, disparurent les mauvaises impressions de la nuit. « Qu'allons-nous faire aujourd'hui ?» demanda Jovita Follet lorsque Lissiwag et elle se retrouvèrent avec Max Réal devant la table du déjeuner. « Voici une superbe journée qui s'annonce. De la brise et du soleil, cela invite à la promenade. Est-ce que nous ne sortirons pas un peu d'Indianapolis ?» « Certes, c'est une ville bien régulière, bien propre, bien époussetée. Mais on dit que la campagne est charmante aux environs. Ne pourrions-nous pas prendre un railroad et revenir par un autre ?» La proposition méritait d'être étudiée. Max Réal consulta un indicateur et les choses s'arrangèrent à la satisfaction générale. Il fut convenu qu'on s'en irait par la ligne qui remonte la White River jusqu'à la station de Spring Valley, à 20 miles d'Indianapolis, en se réservant de revenir par une route différente. Le joyeux trio partit donc, en laissant cette fois Tommy à l'hôtel. Or, puisque Max Réal et Lissiwag étaient trop occupés pour rien apercevoir, Jovita Follet aurait bien dû remarquer 5 individus qui les avaient suivis depuis leur départ. et non seulement ces individus les accompagnèrent jusqu'à la gare, mais ils montèrent dans le même train, sinon dans le même wagon. Puis, lorsque Max Real et les deux amis en descendirent à la station de Spring Valley, ces gens en descendirent aussitôt. Cela n'attira pas autrement l'attention de Jovita Follet, qui regardait à travers les vitres du wagon lorsqu'elle ne regardait pas du côté de Max Real et de Lissy Wag. Il est vrai, craignant sans doute d'être observés, ces individus y mirent une certaine prudence et ils se séparèrent au sortir de la gare. Bref, Max Real, Lissy Wag et Jovita Follet prirent un chemin qui devait les ramener au bord de la White River. Couraient-ils le risque de s'égarer? Non, sans doute. Ils allèrent ainsi pendant une heure à travers cette campagne fertile, arrosée par le creek, ici des champs bien cultivés, là des bois épais, restes de ces anciennes forêts qu'a bâti la hache civilisatrice du bûcheron. Cette promenade fut très agréable, grâce à la douceur de la température. Jovita Follet allait et venait, toute joyeuse, tantôt en avant, tantôt en arrière, gourmandant le jeune couple qui ne s'inquiétait pas d'elle. Et ne prétendait-elle pas aux égards qui sont dus à une mère, et même à une grand-mère, dont elle entendait remplir les fonctions? Il était 3 heures lorsqu'un bac les transporta sur l'autre bord de la White River. Au-delà, sous de grands bois, se développait une route conduisant à la station de l'un des nombreux railroads qui convergent vers Indianapolis. Max Real et ses compagnes se promettaient de faire, jusqu'à la veille du 28, de nouvelles excursions aux alentours de la capitale. Puis, le 27 au soir, à son grand déplaisir comme à celui des deux amis, Max Real monterait dans le train qui le mènerait à Philadelphie. Puis, ensuite, mieux valait ne point y penser. Après un demi-mille sur la route bordée de beaux arbres, très déserte à l'heure où s'effectue le travail des champs, Jovita Follet, fatiguée de ses allées et venues, proposa une halte de quelques minutes. On avait le temps, et pourvu que l'on fût rentré à Sherman Hotel avant le dîner. Précisément, le chemin sinuait entre deux lisières d'arbres, en plein ombre, en pleine fraîcheur. À cet instant, 5 hommes s'élancèrent, les mêmes qui étaient descendus à la station de Spring Valley. Que voulaient ces individus? Ce qu'ils voulaient, car ce n'étaient point des professionnels de l'assassinat ou du vol. Tout simplement s'emparer de Lissy Wag, l'entraîner en quelques lieux secrets, les séquestrer de manière qu'elle ne pût se trouver au post-office d'Indianapolis le 4 juillet, à l'arrivée de la dépêche. Il en résulterait qu'elle serait exclue de la partie, elle qui devançait les 6 autres partenaires, à la veille peut-être d'atteindre le but. Voilà où les conduisait la passion, ces joueurs, ces parieurs engagés dans le match pour des sommes énormes, des centaines de $1000. Oui, ces malfaiteurs, et doit-on les appeler autrement, ne reculaient pas devant de tels actes. 3 de ces 5 hommes se précipitèrent sur Max Real afin de le mettre hors d'état de défendre ses compagnes. Le 4e saisit Jovita Follet, tandis que le dernier cherchait à entraîner Lissy Wag dans les profondeurs du bois, où il serait impossible de retrouver ses traces. Max Real se débattit, et saisissant le revolver qu'un Américain porte toujours sur lui, il fit feu. Un des hommes tomba, blessé seulement. Jovita Follet et Lissy Wag, elles, appelaient au secours, sans pouvoir espérer que leur cri serait entendu. Ils le furent cependant, et derrière un taillis, sur la gauche, des voix s'élevèrent. Quelques fermiers des environs, 12, se trouvaient en chasse dans ce bois, et un providentiel hasard les amena sur le théâtre de l'agression. Les 5 hommes tentèrent alors un dernier effort. Une seconde fois, Max Real tira sur celui qui emportait Lissy Wag à gauche de la route et qui dut abandonner la jeune fille. Mais il reçut un coup de couteau en pleine poitrine, poussa un cri et tomba, inanimé, sur le sol. Les chasseurs apparurent et les agresseurs, dont 2 étaient blessés, comprenant que l'affaire était manquée, s'élancèrent à travers le bois. En somme, il y avait mieux à faire qu'à les poursuivre. C'était de transporter Max Réal à la prochaine station, puis d'envoyer chercher un médecin, puis de le ramener à Indianapolis, si son état le permettait. Lissy Wag, éperdue et en larmes, vint s'agenouiller près du jeune homme. Max Réal respirait, ses paupières se rouvrirent, et il put prononcer ces mots. « Lissy, chère Lissy, ce ne sera rien, rien. Et vous? Vous ?» Ses yeux se refermèrent, mais il vivait. Il avait reconnu la jeune fille. Il lui avait parlé. Une demi-heure plus tard, les chasseurs l'eurent déposé à la station où un médecin se présenta presque aussitôt. Après avoir examiné la blessure, ce praticien affirma qu'elle n'était pas mortelle. Puis, un premier pansement fait, il donna l'assurance que le blessé supporterait sans danger le retour à Indianapolis. Max Réal fut donc placé dans un des wagons du train qui passa vers 5h30. Lissy Wag et Jovita Follet prirent place à ses côtés. Il n'avait pas perdu connaissance, il ne se sentait pas gravement atteint, et à 6h, il reposait dans sa chambre de Sherman Hotel. Hélas, combien de temps serait-il dans l'impossibilité de la quitter? Et n'était-il pas trop certain qu'il ne pourrait être le 28 au post-office de Philadelphie? Eh bien, Lissy Wag n'abandonnerait pas celui qui avait été frappé en la défendant. Non, elle resterait près de lui, elle lui donnerait ses soins. Et, il faut l'avouer à son honneur, bien que ce fût l'anéantissement de toutes ses espérances, Jovita Follet approuva la conduite de sa pauvre amie. Au surplus, un second médecin qui vint visiter Max Réal ne put que confirmer les dires de son confrère. Le poumon n'avait été qu'effleuré par la pointe du couteau, mais il s'en était fallu de peu que la blessure eût été mortelle. La déclaration de ce médecin fut, il est vrai, que Max Réal ne serait pas sur pied avant une quinzaine de jours. Qu'importait ? Il songeait bien à la fortune de William J. Hyperbone maintenant. Et Lissy Wag s'inquiétait bien de sacrifier les chances qu'elle avait peut-être de devenir l'héritière de l'original défunt. Non, c'était d'un autre avenir qu'ils rêvaient tous deux. Un avenir de bonheur qui saurait bien se passer de ces millions du match. Cependant, après longues et mûres réflexions, Jovita Follet s'était dit « En fin de compte, puisque ce pauvre monsieur Réal va rester à Indianapolis une quinzaine de jours, Lissy y sera encore le 4 juillet, à la date de son prochain tirage. Et si, par bonheur, le 7 sortait? Mon Dieu, faites qu'il sorte! Elle gagnerait la partie !» C'était raisonné juste, et à la suite de ses dernières épreuves, le ciel devait bien cela à la cinquième partenaire. Il convient de dire qu'il fut tenu compte de la recommandation faite par Max Réal de ne rien écrire à sa mère de ce qui s'était passé. Il n'avait point donné son nom à l'hôtel, on le sait, et lorsque les journaux racontèrent l'attentat, en indiquant le mobile qui l'avait inspiré, ils ne parlèrent que de Lissy Wag. La nouvelle connut, que l'on juge de l'effet qui se produisit parmi le monde des spéculateurs. Et s'étonnera-t-on que le pavillon jaune fût acclamé dans toute l'Amérique? Les choses, on va le voir, allaient d'ailleurs se dénouer plus promptement et de toute autre façon que ne l'attendait l'immense majorité du public. Le lendemain, 24, à 8h30, les crieurs parcouraient les rues d'Indianapolis, des copies de dépêches à la main, et proclamaient, ou plutôt hurlaient, le résultat du tirage effectué le matin même à Chicago pour le compte du 7e partenaire. Le point amené était celui de 12, 6 et 6. Et comme ce partenaire occupait alors la 51e case, État du Minnesota, c'était lui qui gagnait la partie. Or, le gagnant n'était autre que l'énigmatique personnage désigné sous les initiales XKZ. Et maintenant, le pavillon rouge flottait au-dessus de cet Illinois, 14 fois répété sur la carte du noble jeu des États-Unis d'Amérique. Chapitre 14. La cloche d'Oxwoods. Un coup de tonnerre qui serait entendu de toutes les parties du globe terrestre n'eût pas produit plus d'effet que ce coup de dé sorti du cornet de Maître Thornbrock à 8 heures sonnant le 24 juin dans la salle de l'auditorium. Les milliers de spectateurs qui assistaient à ce tirage, avec la pensée qu'il pourrait être le dernier du match hyperbone, le proclamèrent dans tous les quartiers de la cité chicagoise, et des milliers de télégrammes le répandirent aux quatre coins de l'ancien et du nouveau monde. C'était donc l'homme masqué, le partenaire de la dernière heure, l'intrus du codicille. En un mot, ou plutôt en trois lettres, cet XKZ qui gagnait la partie. Et avec la partie, les 60 millions de dollars. Et n'y avait-il pas lieu d'observer comment s'était accomplie la marche de ce favori de la fortune? Tandis que tant de malheurs frappaient ses six concurrents, celui-ci confiné dans l'hôtellerie, celui-là obligé d'acquitter le péage au pont du Niagara, l'un perdu dans le labyrinthe, l'autre précipité au fond du puits, trois d'entre eux condamnés à la prison, tous ayant eu des primes à payer, XKZ avait toujours marché d'un pas sûr, allant de l'Illinois au Wisconsin, du Wisconsin au district de Columbia, du district de Columbia au Minnesota et du Minnesota au but, sans avoir eu à débourser une seule prime, et dans un rayon restreint, d'où économie de fatigue et de dépenses au cours de ses faciles voyages. Cela ne témoignait-il pas d'une chance peu ordinaire et même merveilleuse, prétend dire, la veine de ces privilégiés à qui tout réussit dans l'existence? Restait à savoir qui était cet XKZ, et il ne tarderait pas à se faire connaître, sans doute, ne fût-ce que pour entrer en possession de l'énorme héritage. Assurément, aux époques indiquées pour ces tirages, lorsqu'il s'était présenté au post-office de Milwaukee du Wisconsin, de Washington, du district de Columbia, de Minneapolis, du Minnesota, les curieux étaient accourus en foule, mais ils n'avaient aperçu tantôt qu'un homme d'âge moyen, tantôt un homme ayant dépassé la soixantaine, lequel avait aussitôt disparu, sans qu'il eût été possible de retrouver ses traces. Enfin, on saurait bientôt à quoi s'en tenir sur ses prénoms, noms et qualités, et son identité établie, l'Union compterait un nouveau nabab en remplacement de William J. Hyperbone. Voici maintenant quelle était la situation des six autres partenaires à la date du 3 juillet, 9 jours après le tirage final. Et d'abord, il convient de dire que tous étaient de retour à Chicago. Oui, tous. Les uns désespérés, les autres furieux, on devine lesquels, et deux tout à fait indifférents à cette issue du match. Et cela, inutile de les nommer. La semaine était à peine achevée que Max Real, à peu près remis de sa blessure, était rentré dans sa ville natale en compagnie de Lucy Wag et de Jovita Foley. Il avait regagné la maison de South Astor Street, tandis que les deux amis rentraient à la maison de Sheridan Street. Et alors, Madame Real, déjà au courant de l'attentat contre Lucy Wag, apprit, comme tout le monde, le nom du jeune homme auquel la jeune fille devait son salut. « Ah, mon enfant !» s'écria-t-elle en pressant Max dans ses bras. « C'était toi ? C'était toi ? Mais puisque je suis guérie, bonne mère, ne pleure pas ! Ce que j'ai fait là, je l'ai fait pour elle, entends-tu? Pour elle, que tu vas connaître, et que tu aimeras autant qu'elle t'aime déjà et que je t'aime. » Ce qui est certain, c'est que ce jour-là, Lucy Wag, accompagnée de Jovita Foley, vint rendre visite à Madame Real. La jeune fille plut infiniment à l'excellente dame, comme celle-ci plut à la jeune fille. Madame Real la combla de caresses, sans oublier Jovita Foley, si différente de son amie, et pourtant si aimable en son genre. C'est ainsi que se fit la connaissance entre ces trois personnes, et quant à ce qu'il en advint, il est nécessaire d'attendre quelques jours pour le savoir. Ce fut après le départ de Max Real que Tom Quebb arriva à Saint-Louis, Dans quel état de fureur et de honte se trouvait John Milner ? Inutile d'y insister. Tant d'argent dépensé en pure perte, non seulement le prix des voyages, mais la triple prime qu'il dut payer dans cet état prison du Missouri. Puis la réputation du champion du Nouveau Monde compromise en cette rencontre avec le non moins dépité Cavanaugh, et dont le véritable vainqueur avait été le révérend Hugh Hunter d'Arundel. Quant à Tom Crabb, il continuait à ne rien comprendre au rôle qu'il jouait, allant où le menait son entraîneur. Est-ce que l'animal qui était en lui ne se trouvait pas satisfait du moment qu'on lui garantissait ses 6 repas par jour? Et combien de semaines John Milner serait-il enfermé dans cette métropole? Or, dès le lendemain, il fut fixé à cet égard, la partie ayant pris fin, et il n'eut plus qu'à réintégrer sa maison de Calumet Street à Chicago. Et c'est ce que fit également Herman Tidbury. Depuis déjà 14 jours, le couple occupait l'appartement réservé aux partenaires du match à Excelsior Hotel de la Nouvelle-Orléans. 14 jours pendant lesquels il avait, somme toute, bien mangé, bien bu, ayant voiture et yacht à ses ordres, loge au théâtre à sa disposition, enfin la grande existence des gens qui jouissent de grands revenus et qui savent les dépenser. Il est vrai, ce genre de vie leur coûtait $200 quotidiens. Et lorsque la note de l'hôtel leur fut présentée, quel coup de massue! Elle s'élevait à $2,800. Et en y ajoutant les primes de la Louisiane, l'amende du Maine, le vol de l'Utah, plus les frais nécessités par des déplacements aussi lointains que coûteux, les dépenses montaient à près de $8,000. Frappés au cœur, c'est-à-dire à la bourse, monsieur et madame Tidbury furent dégrisés du coup. Et, de retour à la maison de Robe Street, ils eurent entre eux des scènes d'une rare violence, pendant lesquelles madame reprochant à monsieur de s'être lancée dans cette ruineuse aventure malgré tout ce qu'elle avait pu dire, lui prouva que tous les torts étaient de son côté. Et monsieur Tidbury finit par en être convaincu, suivant son habitude, d'autant plus que la terrible servante prit le parti de sa maîtresse, suivant son habitude aussi. Il fut d'ailleurs convenu que l'ordinaire du ménage subirait de nouvelles réductions. Mais cela n'empêcha pas les deux époux d'être hantés par le souvenir des jours passés dans les délices d'Excelsior Hotel. Et quelle déception lorsqu'il retombait de ses rêves dans les abîmes de la réalité. Un monstre, cet Hyperbone! Un abominable monstre! S'écriait parfois madame Tidbury. Il fallait gagner ces millions, ou ne pas s'en mêler, ajoutait la servante. « Oui, ne pas s'en mêler !» criait la matrone. « Et c'est ce que je n'ai cessé de dire à monsieur Tidbury. Mais faites donc entendre raison à un pareil !» On ne saura jamais comment l'époux de madame Tidbury fut qualifié ce jour-là. « Ah oui, c'était Kimball ?» Eh bien, ah oui, c'était Kimball s'était tiré sain et sauf de cette collision préméditée pour l'inauguration de la section entre Medary et Sioux Falls City. Avant le choc, il avait pu sauter sur la voie, et non sans avoir rebondi sur lui-même, comme s'il eût été en caoutchouc, il était resté évanoui au pied d'un talus, à l'abri de l'explosion des 2 locomotives. Sans doute, il arrive même en Amérique, que des trains se tamponnent et se télescopent, mais il est rare que l'on soit prévenu d'avance, tandis que cette fois, les spectateurs, placés à bonne distance de chaque côté de la voie, avait pu s'offrir cet incomparable spectacle. Par malheur, Harwist et Kimball, dans les conditions où ils se trouvaient, n'en avaient pas pu jouir. Ce fut 3 heures plus tard, lorsque les équipes vinrent déblayer la voie, qu'on trouva un homme, sans connaissance, au bas du talus. On le releva, on le transporta dans la maison la plus rapprochée, on manda un médecin, on constata que l'inconnu n'était pas mortellement blessé. On le fit revenir à lui, on l'interrogea, on apprit qu'il était le 4e partenaire du match Hyperbone. On sut comment il avait pris place dans ce train expérimental, condamné d'avance à une destruction complète. on lui adressa les reproches qu'il méritait, on ne le condamna qu'à solder le prix du voyage, parce qu'on peut payer en route ou à l'arrivée sur les chemins de fer américains. On télégraphia l'incident au directeur de la tribune et l'on expédia cet imprudent reporter par l'itinéraire le plus direct à Chicago, où, le 25, il retrouva sa maison de Milwaukee Avenue. Et naturellement, cet intrépide Awiste Kimball se déclara prêt à se remettre en voyage, à continuer le match, à courir s'il le fallait d'une extrémité des États-Unis à l'autre. Mais, ayant appris que la partie s'était terminée la veille au profit de XKZ, il n'eut plus qu'à se tenir tranquille et à écrire d'intéressantes chroniques sur les derniers incidents auxquels il avait été mêlé en personne. Dans tous les cas, il n'avait perdu ni son temps ni ses peines. Et quels ineffaçables souvenirs lui restaient de ses visites à travers le New Mexico, le South Carolina, le Nebraska, le Washington, le South Dakota, et de la façon originale dont il avait inauguré la section de Médarie à Sioux Falls City. Son amour-propre de reporter bien informé se sentit cependant touché à l'endroit sensible par une révélation qui lui valut les plaisanteries et les lardons de la petite presse. Ce fut à propos de l'ours qu'il avait rencontré dans les passes de l'Idaho, ce grizzly qui faisait le signe de croix à chaque coup de tonnerre, cet Ursus Christianus, pour lequel il avait trouvé cette dénomination si convenable. Il s'agissait tout simplement d'un brave homme du pays, qui rapportait de chez un fourreur la peau d'un magnifique plantigrade. Comme la pluie tombait à torrents, il s'était recouvert de cette peau, et comme il avait peur, il se signait en bon chrétien à chaque éclair. En somme, Awiste Kimball finit par rire de l'aventure. Mais son rire était de la couleur de ce pavillon que Jovita Follet n'avait pu déployer triomphalement sur la 63e case. Quant à la 5e partenaire, on sait dans quelles conditions elle était revenue à Chicago avec sa fidèle amie, Max Real et Tommy, non moins désespérée de l'insuccès de son maître que Jovita Follet l'était de celui de Lissy Wag. « Mais résigne-toi donc, ma pauvre Jovita !» lui répétait Lissy Wag. « Tu sais bien que je n'ai jamais compté. Mais moi, j'y comptais !»« Tu avais tort. Après tout, d'ailleurs, tu n'es pas à plaindre. » « Et je ne me plains pas, » répondit en souriant Lissy Wag. « Si l'héritage hyperbone t'échappe, tu n'es plus du moins une pauvre fille sans fortune. »«
Comment cela ?»«
Sans doute, Lissy, après cet XKZ qui est arrivé le premier au but, c'est toi qui en as le plus approché, et le produit des primes te revient tout entier. »«
Ma foi, Jovita, je n'y pensais guère. »
Et moi j'y pense pour toi, insouciante Lissy, et il y a là une grosse petite somme dont tu es la légitime propriétaire.
En effet, les $1,000 au pont du Niagara, les 2,000 à l'hôtellerie de la Nouvelle-Orléans, les 2,000 au labyrinthe du Nebraska, les 3,000 à la vallée de la mort de la Californie et les 9,000 successivement versés à la prison du Missouri, cela se chiffrait par $17,000, qui appartenaient sans conteste et d'après la teneur du testament au second arrivant, soit la 5e partenaire. Pourtant, ainsi que venait de le dire Lissy Wag, elle n'y avait point songé, et songeait à bien autre chose. Toutefois, il était une personne dont Max Real n'aurait pu être jaloux, mais à laquelle pensait quelquefois sa fiancée. Car il est superflu de dire que le mariage du jeune peintre et de la jeune fille avait été décidé. Cette personne, on le devine, était l'honorable Humphrey Weldon, qui avait honoré de sa visite la maison de Sheridan Street pendant la maladie de Lissy Wag, et auquel était dû l'envoi des $3,000 pour le paiement de la triple prime à la prison du Missouri. Que ce ne fût qu'un parieur courant après son argent, comme on dit, il n'en avait pas moins et généreusement obligé la prisonnière, qui entendait d'ailleurs le rembourser sur son gain. Aussi lui en gardait-elle une juste reconnaissance et aurait été heureuse de le rencontrer. Seulement, on ne l'avait pas encore revu. Pour achever cet état de situation, il suffira de rappeler l'attention sur Hodge Hurricane. Le 22 juin, s'était effectué le tirage le concernant alors qu'il se trouvait au Wisconsin. On n'a pas oublié que le point de 5 par 1 et 4 l'expédiait à la 31e case, état du Nevada. Un nouveau voyage d'environ 1200 miles, mais l'Union Pacific l'y conduirait, puisque le Nevada, l'un des moins peuplés de la Confédération, quoiqu'il y tienne le 6e rang par sa superficie, est compris entre l'Oregon, l'Idaho, l'Utah, l'Arizona et la Californie. Mais, par un excès de malchance, c'est en cet état que William J. Hyperbone avait placé le puits, au fond duquel l'infortuné joueur devrait piquer une tête. La fureur du Commodore fut portée au comble. Il résolut de s'en prendre à Maître Thornbrock. Tout cela se réglerait, la partie achevée, et Turk déclara qu'il sauterait à la gorge du notaire, l'étranglerait à belles dents, lui ouvrirait le ventre et lui mangerait le foie. D'ailleurs, avec la hâte qu'il mettait en toute chose, Hodge Hurricane quitta Milwaukee dès le 22, sauta dans le train avec son inséparable compagnon, après avoir adressé au notaire les 3 000 $ que lui coûtait ce dernier coup de dé, et fila à toute vapeur vers le Nevada. C'était à Carson City, la capitale, que le pavillon orangé devait être rendu avant le 6 juillet. Il convient de dire que si, suivant la volonté du défunt, le Nevada avait reçu cette destination dans la carte du match, c'est que les puits y sont nombreux, puits de mine, s'entend, et au point de vue de la production de l'argent et de l'or, le Nevada tient la 4e place dans l'Union. Improprement désigné par ce nom, puisque la chaîne du Nevada est en dehors de son territoire, il a pour principale ville Virginia City, Gold Hill, Silver City. Dénomination qui s'explique. Ces villes sont pour ainsi dire construites au-dessus des filons d'argent, tels celui du Comstock Lode, et il est de ces puits qui s'enfoncent jusqu'à plus de 2700 pieds dans les entrailles de ce sol. Puits d'argent, si l'on veut, mais puits qui justifiait le choix du testateur, et aussi la juste colère de celui que le sort venait d'y envoyer. Il n'y arriva pas. À Great Salt Lake City, dans la matinée du 24, la grande nouvelle lui parvint. La partie était terminée au profit de XKZ, le vainqueur du match Hyperbone. Le Commodore Hurricane revint donc à Chicago. Et dans quel état? Il est plus facile de l'imaginer que de le décrire. Il n'est pas exagéré d'affirmer que, de ce côté de l'Atlantique, comme de l'autre, on respirait enfin. Les agences allaient se reposer, les courtiers reprendre haleine. Les paris seraient réglés avec une régularité qui ferait honneur au monde si mêlé de la spéculation. Cependant, pour tous ceux qui s'étaient intéressés à cette partie nationale, même platoniquement, il y avait encore une curiosité à satisfaire, et non la moindre, on en conviendra. Qui était XKZ? Et se ferait-il connaître? Nul doute à cet égard. Lorsqu'il s'agit d'encaisser 60 millions de dollars, on ne garde pas l'incognito. On ne se cache pas sous des initiales. Le regagnant devait se présenter en personne, et il se présenterait. Mais quand et dans quelles conditions? Aucun délai n'avait été fixé par le testament. Toutefois, on ne pensait pas que cela pût tarder quelques jours au plus. Le dit XKZ était au Minnesota, à Minneapolis, lorsque la dépêche du dernier tirage lui avait été expédiée, et une demi-journée suffit pour venir de Minneapolis à Chicago. Or, une semaine, puis une autre, s'écoulèrent, et pas de nouvelles de l'inconnu. L'une des plus impatientes, cela va de soi, était bien Jovita Foley. Cette nerveuse personne voulait que Max Réal allât 10 fois par jour aux informations, qu'il se tînt en permanence à l'auditorium, où le plus heureux des sept ferait assurément sa première apparition. Or, Max Réal avait l'esprit plein de choses d'un bien autre intérêt. Et alors Jovita affolée de s'écrier « Ah, si je le tenais, ce gagnant !»«
Modère-toi, ma chérie !» lui répétait Lissy Wag.
« Non, je ne me modérerai pas, Lissy. Et si je le tenais, je lui demanderais de quel droit il s'est permis de gagner la partie. Un monsieur dont on ne sait même pas le nom. »
« Mais, ma chère Jovita, » répondit Max Réal,
« si vous le lui demandiez, c'est qu'il serait là et il n'aurait plus à se faire connaître. »
Il n'y a pas lieu de s'étonner si les deux amis n'étaient pas encore rentrés dans les magasins de M. Marshall Field pour reprendre leurs fonctions. D'abord, Lissy Wag y devrait être remplacée. Et quant à Jovita Follet, elle entendait que toute cette affaire fût terminée avant de revenir à son rayon comme première vendeuse, car elle n'avait plus la tête à elle. À tout prendre, avec ses impatiences, elle traduisait fidèlement l'état de l'opinion publique, aux États-Unis comme ailleurs. À mesure que le temps s'écoulait, se montaient les imaginations. La presse, surtout la presse sportive, était affolée. Nombre de gens affluaient chez Maître Thornbrock, et toujours même réponse. Le notaire affirmait ne rien savoir en ce qui concernait le porteur du pavillon rouge. Il ne le connaissait pas, il ne pouvait dire où il était allé en quittant Minneapolis, où la dépêche lui avait été remise en main propre. Et lorsqu'on le pressait, lorsqu'on insistait, « Il viendra quand cela lui fera plaisir !» se bornait à répondre Maître Thornbrock. C'est alors que les partenaires, sauf Lissy Wag et Max Réal, jugèrent bon d'intervenir, non sans quelques droits. En effet, si le gagnant ne se déclarait point, n'avait-il pas raison de prétendre que la partie n'était pas gagnée, qu'elle devait être reprise et continuée? Le commodore Ewican, Herman Tidbury, John Milner, fondé de pouvoir de Tom Quebb, absolument intraitable et conseillé par leur sollicitor, annoncèrent leur intention d'actionner en justice l'exécuteur testamentaire du défunt. Les journaux qui les avaient soutenus au cours du match ne les abandonnèrent pas. Dans la tribune, Awist et Kimball fit paraître un article des plus vifs contre XKZ, dont on arrivait à nier l'existence, et le Chicago Herald, le Chicago Interocéan, le Daily New Record, le Chicago Mail, la Free Press défendirent avec une incroyable violence la cause des partenaires. Toute l'Amérique se passionna pour cette nouvelle affaire. Impossible, d'ailleurs, de régler les paris tant que l'identité du gagnant n'aurait pas été constatée par acte authentique, tant qu'il n'y aurait pas certitude que le match était définitivement terminé. Il n'y avait qu'une opinion là-dessus, et il fut question d'une manifestation monstre dans un meeting à l'auditorium. Si XKZ ne s'était pas fait connaître dans un délai de... Maître Thornbrock serait mis en demeure de reprendre les tirages. Tom Quebb, Herman Tidbury, Awist et Kimball, le commodore Ewican, et même Jovita Follet, si on voulait lui permettre de se substituer à Lissy Wag, étaient prêts à partir pour n'importe lequel des états de la Confédération où le sort voudrait les envoyer. Enfin, l'agitation publique atteignit une telle intensité que les autorités durent s'en émouvoir. À Chicago surtout. Il fallut protéger les membres de l'excentrique club et le notaire que l'on rendait responsable. Bref, le 15 juillet, trois semaines après le dernier coup de dé qui avait fait de l'homme masqué le gagnant du match, un incident des plus inattendus se produisit. Ce jour-là, à 10h17 du matin, le bruit se répandit que la cloche sonnait à toute volée au monument funèbre de William J. Hyperbone dans le cimetière d'Oxwoods.